Vous écoutez RTL.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulquet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La curiosité, c'est du lundi au vendredi sur RTL. On est ensemble jusqu'à 15h pour faire le plein de connaissances. Ça va, Sidonie ?
Ça va très bien, les curieux. Ça va très bien aussi, Thomas.
Merci de me dire bonjour, quand même, sympa.
Qu'est-ce que vous êtes susceptible ? On est très heureux, en tout cas, de démarrer avec vous une nouvelle semaine. Depuis le début du mois, on a partagé le destin de Florence Foresti, Alain Delon, France Gall, mais aussi le sculpteur César, le Mahatma Gandhi ou Bachar el-Assad, le dictateur syrien.
Donc, les grands destins nous fascinent, mais il y a aussi l'aventure, la science, l'histoire et l'observation de la nature.
Justement, tout à l'heure, vers 14h30, on va se passionner pour leur record. Quel est l'animal qui dort le plus, celui qui mange le plus? Quelle bête est la plus sale? Ou au contraire, quelle est celle qui brille de propreté? Quel est le plus vieil animal, le plus grand, mais aussi le plus poilu? Bon, notre curiosité n'a aucune limite.
Bah oui, effectivement, puisqu'on part tout de suite coloniser une autre planète, tout simplement.
Mon nom est Stephen Hawking. Je suis convaincu que les humains doivent quitter la Terre.
RTL.
Nous devons utiliser notre curiosité et notre intelligence.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pour regarder vers les étoiles et nous installer sur une nouvelle planète.
Curieuse, curieux.
Pour m'aider à découvrir où et comment nous pourrions établir une colonie extraterrestre, j'ai fait appel à mon ancien élève et ami, le physicien et écrivain Christophe Galfard.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Bonjour Christophe Galfard.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bienvenue, merci. On est très heureux de vous retrouver dans la curiosité. Vous êtes donc parti en mission à la demande de Stephen Hawking. En quoi est-ce un défi gigantesque si on devait lister en une phrase ce qui nous manque?
Pour aller sur notre planète?
Oui, pour coloniser notre planète.
Déjà, c'est longue. Loin. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'aller trouver un autre continent sur Terre. Ça a pris pas mal de temps. Mmh. Pour les Européens ou pour d'autres civilisations, ça prend du temps de traverser ces distances-là, ne serait-ce que sur Terre. Alors, si on veut trouver une autre planète dans l'espace, les distances sont colossales. Les dangers, mais d'un niveau complètement incomparable à ce qu'on peut trouver sur Terre. En gros, l'univers, c'est gigantesque et extrêmement hostile.
Christophe Galfard, vous signez un documentaire en quête d'une nouvelle Terre, quel grand projet, diffusé sur France 5 le 6 février. Et la première question que vous posez, évidemment, c'est où aller ?
Ben oui, parce qu'on ne peut pas partir tout droit comme ça et fermer les yeux et croire en notre bonne étoile et se dire « Ah, on va arriver dans une belle petite planète toute chaude, ça va être sympa dans pas trop longtemps. »
Il n'y a pas de GPS non plus, pas de carte, vraiment.
Il n'y a rien de tout ça, donc on est un peu obligé depuis la Terre de trouver des cibles, des endroits où aller. Alors on pourrait regarder autour de nous, autour du Soleil, mais là on était un petit peu plus ambitieux, on a voulu voir plus loin.
Donc une exoplanète, c'est ça, une planète qui est en dehors du système solaire. Et alors, vous en décrivez un certain nombre, parce que depuis, quoi, ça fait une vingtaine d'années qu'on a découvert des exoplanètes, on en connaît combien aujourd'hui?
Bah, c'est ça, nos ancêtres pouvaient penser qu'il existait d'autres mondes ailleurs, c'est-à-dire des mondes qui tournent autour d'autres étoiles, des soleils qui ne sont pas le soleil, des étoiles qui ne sont pas le soleil, et n'avoir aucune preuve. Effectivement, la première fois qu'on a vu directement une étoile autour une planète autour d'une autre étoile, c'était en 1994. Donc c'était vraiment il n'y a pas très longtemps. Et depuis, là, à la mi-janvier, j'ai pris les chiffres, on en est à 3587 planètes confirmées, exoplanètes confirmées, et puis il y en a plus de 4500 qui sont encore à confirmer.
Alors elles ne sont pas toutes accueillantes, tiens, on va en choisir juste une pour se rendre compte qu'il faut bien cibler, il ne faut pas aller n'importe où. C'est par exemple cette planète qui est surnommée Isis, elle a une couleur bleue, là, elle a l'air sympa, mais en fait, ici, passe quoi?
C'est vrai qu'Isis, si on la regarde de loin, on peut être tenté d'y aller et de se poser dessus et de se dire que cette jolie couleur bleue va rappeler la Terre. Mais Isis, le nom technique, c'est HD 189 733 b. C'est une petite
Bonjour,
planète
madame.
Qui est à environ 60 années-lumière de la Terre. C'est loin hein, quand même. Mais ce bleu, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Là-bas, ce sont des bouts des lames de glace, des lames de métal, si vous voulez, qui se traînent dans l'atmosphère et qui peuvent vous déchiqueter en morceaux parce que les vents sont à plus de 7000 km/h dans l'atmosphère.
Donc c'est bien pour un film de science-fiction, pas pour y vivre vraiment. On ne projette pas beaucoup. Quoi.
Mais ça donne un exemple de l'extrême qu'on peut trouver dans l'espace. Il y a des planètes qui sont en train de fondre, il y a des planètes qui ont une sorte de queue derrière elles, comme des comètes. Il y en a qui sont à plus de 3000 degrés. La Terre, franchement, est super accueillante.
Et en 2016, une découverte exceptionnelle par une équipe européenne, c'est Proxima du Centaure. C'est l'étoile la plus proche de nous. Est-ce qu'il y a une planète habitable à proximité? Ça nous arrangerait?
Bah oui, ça nous arrangerait parce que quand vous regardez toutes les étoiles du ciel, bah forcément, il y en a une qui est plus proche de nous que toutes les autres. Eh ben, elle s'appelle Proxima du Centaure et il se trouve que il y a un astronome écossais du nom de James Jenkins qui travaille à l'observatoire du Chili, qui est un observatoire européen, a découvert qu'il existait, avec son équipe, il a découvert qu'il existait une planète à côté de cette étoile.
Alors, elle ressemble à quoi sur l'annonce de l'agence immobilière? Alors, moi, je juge que sur photo.
Comme toute bonne annonce immobilière, l'emplacement, c'est exactement ça qui nous intéresse. Hein.
Pour la revente, c'est mieux.
C'est pour la revente, c'est mieux. Il y a plusieurs choses. Il y a l'emplacement de cette planète, ce qui n'est pas trop loin de son étoile, qui n'est pas trop proche non plus. Ce qui fait que, normalement, il devrait y faire une température correcte si jamais elle a une bonne atmosphère. Ouais. Mais il y a des chances qu'elle en ait une. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Elle montre toujours la même face au soleil, ce qui fait qu'il y a un côté brûlant, un côté glacé. Du coup, entre les deux, il y a une bande où on pourrait très bien habiter. C'est pour ça que c'est important de bien choisir l'emplacement
effectivement
de sa maison.
Bon, bah allez, on est d'accord, on a choisi Proxima B, on est prêt à partir avec vous, sauf qu'elle est quand même à 4,2 années-lumière de la Terre. C'est beaucoup trop loin en l'état de nos connaissances et de notre technologie. Peut-on inventer le vaisseau pour nous y emmener? Réponse dans un instant sur RTL.
RTL Midi, Stéphane Carpentier, Christelle Rebière.
Plus que jamais, l'interactivité est au cœur de RTL.
Vous êtes nos experts du quotidien et nous comptons sur vous au 3210 et sur les réseaux sociaux pour échanger sur les thèmes qui vous intéressent.
Débattre et témoigner pour mieux comprendre l'actualité, c'est dans RTL Midi.
RTL Midi, 12h30, 14h, avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier.
Où règnent des températures infernales.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des horizons où les soleils se couchent deux par deux.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous sommes en train de découvrir que l'univers recèle des mondes extraordinaires.
Si votre défaut, c'est la curiosité,
les exoplanètes,
alors vous êtes bien sur RTL.
On partage la mission fascinante de notre invité, le physicien Christophe Galfard. Trouver une planète pour nous accueillir en dehors du système solaire et puis les moyens de s'y rendre, évidemment. Christophe Galfard, la fusée Saturne qui avait permis d'aller sur la Lune, bon, elle est un peu obsolète maintenant, mais si on la prend quand même pour imaginer un peu le trajet qu'on pourrait faire, elle mettrait combien de temps pour aller à Proxima du Centaure?
Oh, pas trop, 200 000 ans.
Ah oui.
Donc on n'y est pas tout de suite.
Donc faut inventer autre chose.
Oui, ça marche pas. Le truc avec les fusées dans l'espace, c'est pas tant la quantité de carburant qu'on peut emporter. C'est plutôt la façon dont le carburant est éjecté à l'arrière de la fusée. Si le carburant est éjecté vite, on peut aller vite. Plus ça éjecte vite, plus on peut aller vite. Or, les carburants type fusée Saturne 5, eh ben, il y a une vitesse limite. Ce qui fait qu'il y a une vitesse limite pour les fusées de ce type-là. Et ça prend beaucoup trop longtemps pour aller vers des planètes.
Mais attendez, on ne va jamais pouvoir y aller. En fait, vous nous faites envie avec Proxima B. On a les photos et tout ça. Et en fait, on ne pourra pas y aller.
Ah, ça dépend. Peut-être qu'on peut trouver une autre technique, une autre technologie. Et il y a des gens qui travaillent à ça depuis quelques temps déjà.
Sur la foudre notamment, c'est ça?
Alors effectivement, c'est sur ce qui apparaît lorsque la foudre frappe dans le ciel. Quand la foudre frappe, il y a quelque chose qui est créé qu'on appelle un plasma. Plasma, c'est la même chose que ce qui est aussi à la surface du soleil. C'est en gros l'état de la matière le plus énergétique qu'on connaisse. C'est la matière qui est ultra chaude, ultra qui bouge dans tous les sens et qui en plus est chargée électriquement. Ce qui fait que si vous mettez un aimant, vous pouvez le faire accélérer ultra vite. Vous pouvez, avec un magma, éjecter des matériaux à l'arrière de votre fusée à des vitesses colossales et à des températures gigantesques. On parle de plusieurs millions de degrés.
Et donc ce moteur à plasma, il y a des gens qui y travaillent. Vous les avez rencontrés pour ce documentaire diffusé sur France 5 mardi prochain, le 6 février.
Alors figurez-vous que pour les petits satellites, on les utilise déjà, ces moteurs à plasma. Il y en a déjà qui sont aux alentours de Saturne, Jupiter, qui sont utilisés. Mais c'est tout petit. Là, il y a par exemple le physicien et l'ingénieur et astronaute Franklin Chang-Diaz, qui a quand même été cette fois sur la station spatiale, donc il sait un peu de quoi il parle, qui travaille depuis 30 ans sur des moteurs à plasma pour conquérir tout le système solaire. Et avec son moteur, il prédit qu'il peut arriver sur Mars en un peu moins de deux mois, en 39 jours.
Alors qu'aujourd'hui...
Aujourd'hui, c'est plus long.
Ouais, d'accord, bon, on oublie.
C'est 5-6 mois minimum.
Et ça pourrait nous emmener encore plus loin, c'est-à-dire vers ces exoplanètes qu'on rêve avec vous de conquérir.
Alors, pour une première tentative éventuellement, mais là, ça fait encore trop long. On parle de plusieurs centaines d'années quand même pour arriver jusqu'à Proxima du Centaure, donc il faudrait quelques générations là-haut. Mais d'autres techniques sont en train d'être aussi développées, par exemple des énormes voiles sur lesquelles on pourrait tirer avec des lasers pour faire accélérer des vaisseaux dans l'espace. Pour là, pour le coup, atteindre Proxima B, c'est le but, en 20 ans.
Alors l'autre difficulté, c'est l'impact, parce que notre objectif, c'est d'aller sur une planète et d'y arriver en bonne santé. Donc l'autre objectif, c'est que les astronautes ne soient pas trop cabossés, j'ai envie de dire, par ce voyage dans l'espace. Aujourd'hui, un exemple, quand Thomas Pesquet passe 6 mois sur la Station Spatiale Internationale, il perd à peu près, c'est dans votre doc, 6% de structure osseuse, 30% de masse musculaire. Et vous êtes allé voir une centrifugeuse. Qu'est-ce qu'elle fait, cette centrifugeuse, qui est en Allemagne, à Cologne?
Ben, vous voyez, c'est exactement ce que vous venez de dire. Si vous imaginez que vous passez 6 mois dans l'espace, vous n'avez plus de muscles, en gros, oui. Pour le dire franco. Du coup, les astronautes qui atterrissent ne peuvent pas marcher. Et c'est pas possible,
donc ça ne sert à rien.
Donc il faut attendre un peu, il faut se réhabituer, etc. Ce serait quand même dommage de voyager jusqu'à une autre planète et d'être incapable de marcher pendant des mois et des mois. Du coup, il y a au Centre Spatial Européen de l'ESA, à Cologne, il y a un centre d'entraînement des astronautes. Et là, on cherchait des solutions pour justement faire en sorte que le corps ne soit pas aussi démoli après un long séjour dans l'espace.
Donc une machine, par exemple ?
Une machine. Et là, on parle de centrifuge ou centrifugeuse. Je ne sais plus exactement comment on dit. En gros, c'est une sorte de... Comme des carottes qui vont tourner dans votre centrifuge. Vous allez être au bout d'un long bras qui va tourner très vite. Et ça va... vous donnez l'impression, et ça va donner l'impression à votre corps et à vos muscles, que vous êtes dans la gravitation de la Terre.
Donc il y aura de la résistance, c'est ça, on va travailler nos muscles.
Et vous pouvez tenir debout, sauf que vous êtes allongé. Mais vous avez l'impression d'être debout, contre le mur, parce que le mur va tourner vite autour de vous.
Et cet engin, cette centrifugeuse, elle pourrait être intégrée à un vaisseau ?
Alors, soit on peut faire des petites centrifugeuses à l'intérieur d'un vaisseau, soit on peut carrément faire en sorte que le vaisseau tout entier tourne sur lui-même, et ça fait une fausse gravitation. Et là, pour le coup, on n'a pas besoin de faire tellement de sport que ça.
Génial.
Bon, imaginons que le vaisseau pour aller coloniser une exoplanète existe, il reste d'autres défis qu'un animal peut peut-être nous aider à relever.
Une bestiole.
Lequel ? Réponse sur RTL. Juste après la pause.
La curiosité est un vilain défaut.
Y a-t-il des planètes au-delà de notre système solaire ? Rares sont les astronomes qui ont osé se confronter à cette question.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Aujourd'hui, des milliers de ces étranges univers ont été découverts. Certains pourraient-ils abriter une vie extraterrestre ?
La curiosité est un vilain défaut.
Mais certaines planètes offrent de nouvelles promesses.
Curieuse ? Curieux ?
Serions-nous sur le point de découvrir une autre Terre ?
Vous êtes chez vous, sur RTL.
En quête d'une nouvelle Terre, c'est le titre du documentaire présenté par notre invité, le physicien Christophe Galfard, documentaire diffusé sur France 5 mardi prochain, le 6 février. Christophe Galfard, vous avez beaucoup voyagé pour ce film. L'une des plus belles images, ce sont ces aurores boréales que vous découvrez, ce qui vous permet de nous expliquer les radiations solaires. Et on comprend tout grâce à vous, ça change, donc c'est un vrai bonheur. Mais je voudrais qu'on prenne du temps pour... parler de cet animal qui peut aider les astronautes à faire de longs voyages dans l'espace. Ça, c'est très surprenant. Quel est cet animal ?
Alors, on parle de l'ours. C'est extrêmement étonnant. Moi, j'ai vraiment été surpris en apprenant ça et en allant vérifier, parce que quand on me l'a dit, je n'ai pas cru, donc je vais vérifier. Et si vous êtes dans l'espace, vous n'êtes plus protégé par l'atmosphère de la Terre. Mm-hmm. Non, on n'habiterait pas, on ne pourrait pas habiter sur Terre, à la surface en tout cas, on ne pourrait pas vivre à l'air libre. S'il n'y avait pas d'air.
Oui.
Non seulement parce qu'on ne pourrait pas respirer, ça c'est une chose, mais surtout parce qu'il y a des radiations. Le soleil nous envoie énormément de radiations, comme des ultraviolets et des choses différentes aussi qui peuvent détruire l'intérieur même de notre corps, de notre ADN, et c'est pas bon du tout.
Donc pendant un voyage spatial, il faut aussi se protéger de ces radiations.
Exactement. Ouais. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas comment construire un vaisseau qui pourrait protéger des astronautes qui voyageraient pendant des dizaines et des dizaines d'années dans l'espace. On ne sait pas. Il faudrait une paroi de plusieurs dizaines de centimètres de plomb. C'est complètement absurde d'avoir un truc aussi l'ours dans l'espace.
Je vois pas bien alors le rôle de l'ours dans l'histoire.
Et ben moi non plus au début.
Et pourtant, ça nous rassure. Je suis allé voir et j'ai rencontré le docteur Robert Henning qui travaille à l'université de Groningen en Allemagne et qui m'a montré une découverte qu'il a faite que je trouve absolument sidérante. C'est que les cellules et l'ADN des ours en hibernation sont protégés contre les radiations solaires.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, ces ours?
Ils ont une sorte de mécanisme qui fait que pendant l'hibernation, et ça c'est vrai pour la plupart des mammifères qui hibernent, il y a un mécanisme qui fait que l'ADN se détruit pendant l'hibernation. Et au moment du réveil, l'ADN se remet ensemble et se répare sans faire d'erreur. C'est absolument génial. Et on voit en plus que lorsqu'on irradie les cellules de ces ours en hibernation, elles ne sont pas endommagées comme le seraient les nôtres, par exemple. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là, à trouver dans cette direction-là, pour essayer de protéger les humains qui iraient dans l'espace en hibernant.
Donc Christophe Guelfard, si on commence à imaginer là ce vaisseau, c'est un vaisseau qui recrée la gravité en tournant sur lui-même, et c'est un vaisseau où les astronautes sont plongés en sommeil artificiel, en hibernation pendant des mois, ou peut-être plus. On va continuer, grâce à vous, notre voyage vers le futur de l'humanité. Qu'est-ce qu'on mange? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Parce que bon,
j'ai faim maintenant.
On arrive sur Proxima B, mais il faut se nourrir. Donc qu'est-ce qu'on mange? Vous avez aussi une réponse à cette question.
Et puis dans la curiosité, on découvrira d'autres animaux qui peuvent nous bluffer leurs records. Les records qu'ils battent sont absolument impressionnants, vous verrez.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Les gens pensent que c'est de la science-fiction, mais regardez, ça fait 15 ans qu'on est dans l'espace, que ça marche très bien. Évidemment, l'environnement est difficile, mais on avance. Je pense que si on arrive à vraiment se concentrer sur les problèmes technologiques, dans 15-20 ans, on peut être sur Mars. Moi, je serais volontaire. Alors, évidemment, on est tous un peu explorateurs dans le corps des astronautes. On lèverait tous la main pour faire ce voyage-là. On a tous envie d'aller quelque part où personne n'est jamais allé, mettre le pied où personne n'a jamais mis le pied.
Thomas Pesquet, qui témoigne dans le documentaire de notre invité, le physicien Christophe Guelfard, il est prêt, évidemment, mais comme beaucoup d'autres témoins de votre film, des scientifiques, des chercheurs, à partir, alors lui dit pour Mars, ou même encore plus loin vers cette planète en dehors de notre système solaire. Bon, on imagine, on a construit le vaisseau, on arrive sur place, il faut faire en sorte de se nourrir. Qu'est-ce qu'on mange?
Moi, je vous préviens, je ne fais pas la cuisine.
C'est ce que je disais tout à l'heure. On va s'y coller alors, Sidonie, il n'y a
avec
pas
plaisir.
De problème. On fera ça, on va faire une tournante pour la cuisine. Et pour trouver la réponse à cette question, Christophe Guelfard, vous êtes allé sur l'île du Spitzberg. Alors pourquoi? C'est dans l'Arctique, c'est ça?
Oui, c'est très loin, très loin au nord. Parce que là-bas, il y a une banque de graines. C'est une sorte de réserve de la plupart des graines qu'on peut trouver sur Terre. Et c'est gardé dans un endroit profondément enfoui à l'intérieur d'une montagne où il fait très froid, il fait moins 20 à l'intérieur toute l'année, et où c'est une sorte de sauvegarde. En cas de catastrophe, on pourrait replanter la Terre. Et en l'occurrence, si on va sur une autre planète, c'est assez pratique d'avoir cette petite réserve qui est là, dans laquelle on pourrait piocher autant de graines que possible, des graines qui peuvent ne pas avoir besoin de beaucoup d'eau, être dans des sols arides, dans des sols acides, dans tout type de sol, pour qu'une fois sur place, on ait quelques éléments à faire pousser dans un environnement qu'on ne connaîtra pas forcément a priori. Donc on peut prendre faire notre petit marché dans cette réserve de graines avant de partir dans l'espace.
Il faut manger aussi pendant tout le voyage jusqu'à Proxima B. Ça, vous y avez pensé aussi ou pas?
Oui.
Parce que les graines, c'est bien sympa, mais franchement, ça nourrit pas.
Et on peut pas non plus garder les gens en hibernation pendant 30 ans. Ça marche pas. Il faut les réveiller pour qu'ils respirent, pour que leur ADN se répare pendant le chemin. Et là, effectivement, il faut les nourrir. Il y a plusieurs manières de les nourrir. Il y a à mon avis, ça va pas être très bon ce qu'on va manger là-haut, sauf peut-être pour des occasions particulières, comme ils le font dans la station spatiale, on l'a montré dans le documentaire, et ça risque de pas être très bon. Mais l'avantage aussi d'être en hibernation, par exemple 6 mois par an, ça permet d'emmener moitié et moins de nourriture que si on était réveillé tout le temps.
On mange moins et on consomme moins d'oxygène. Merci beaucoup Christophe Guelfard.
Merci
à vous. On conseille vraiment de voir votre documentaire, il est passionnant. On comprend tout, Enquête d'une nouvelle Terre. C'est diffusé le 6 février sur France 5. Merci.
Vous écoutez RTL.